Bonjour. Je vous emmène dans l'existence probable et surtout inouïe de la réalité invisible, contre laquelle la société, qui rend ses membres fous de manière conditionnée, se lève par le vecteur de sensation de contrôler quelque chose. Je vous donne rendez-vous dans la dimension invisible.
Must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing.
Ouais, bon, mais bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est parti pour une après-midi autour du jeu. Comme on est à l'université, je vous rappelle que j'aime bien qu'on fasse quelques conférences quand même, hein, qu'on pose les choses comme dans une journée d'études en quelque sorte. Chaque année, on a, alors pas l'année dernière hein, puisqu'on n'avait pas fait, mais chaque année on a un thème différent. Cette année, je sais plus si c'est Pierre qui avait dit, ou je sais plus, hein, il m'avait dit, bah, puisque t'es en musique, pourquoi pas faire musique. Et en effet, je rappelle que donc je suis le responsable du diplôme musicologie. Il y a une mineure qui correspond aux musiques actuelles, musique son, musique image. Et effectivement, en deuxième année, alors je regrette de ne pas voir, mais ils vont peut-être arriver tout à l'heure quand même, quelques étudiants. On fait un cours autour de la musique ludique, donc la musique dans l'environnement du jeu. Plutôt jeu vidéo, parce que c'est un gros morceau, mais moi je fais toujours une séance autour de la sonorisation des scénarios de jeux de rôle, des parties de jeux de rôle sur table, puisque c'est quelque chose, mais qui est arrivé relativement progressivement. C'est ce que je vais vous montrer. En fait, là, ici, je me sers beaucoup de ce que je fais en cours. Hein, donc, et je montre qu'en fait, la sonorisation des parties de jeux de rôle sur table, elle n'est pas arrivée dès le début du tout. Et qu'en fait, elle est fonction aussi des techniques de diffusion actuellement qui permettent de préparer des playlists pléthoriques, de lancer 20 secondes d'une musique, 20 secondes d'une autre et tout ça, ce qu'on ne pouvait vraiment pas faire autrefois avec une cassette ou un vinyle, il fallait un peu de temps de manipulation. Là, bah oui, puisque le jeu de rôle c'est de l'immersion, alors si vous êtes en train de bidouiller pendant 30 secondes et que l'histoire s'arrête, évidemment ça fait retomber soufflé, quoi. Bon bref. Donc en effet, au début, on parlait un peu de musique dans le jeu de rôle, mais par les mots seulement, il n'y avait pas de musique qu'on entendait. Alors à travers les personnages musiciens dans le jeu de rôle. Le barde dans les jeux de rôle d'Heroic Fantasy, mais vous voyez, dans la première apparition du barde, c'est dans les règles avancées de Donjons et Dragons, 78, mais il est dans l'annexe, donc ce n'est pas considéré comme un personnage absolument iconique. C'est un personnage possible, mais après tous les autres, après le guerrier, après le magicien, après voilà. Alors voilà les itérations du barde au fur et à mesure des éditions. Ça, c'est le barde de la deuxième édition, un vielleux, là. À chaque fois, ils ont des instruments un peu différents. Troisième édition, bon, l'instrument de musique, il est presque relégué un peu à l'arrière. Hein. À l'avant, il y a l'arbalète, il y a l'écoute là. On sent que c'est quand même un aventurier avant tout, même s'il peut être musicien quand même à part entière. Dans la fameuse édition 4, à nouveau, le barde n'est plus un personnage fondamental de base, il n'apparaît que dans le manuel des joueurs numéro 2, le deuxième. Là, à travers une race de tiflins qui était relativement récente dans ces éditions-là. Et voilà notre dernière édition. Actuel, et à nouveau, c'est une guitare, mais on a l'impression d'une guitare électrique sans électricité, quoi. Enfin, c'est... Bon, alors, ce personnage de Bard, comme vous le savez, c'est un musicien, mais dont la musique a un pouvoir. C'est-à-dire que jouer de la musique, c'est quasiment incanter des sortilèges, ça provoque des effets. Hein. Et c'est la même manière, à l'opposé, une certaine période, donc de tout le courant cyberpunk, où là, pour le coup, le musicien est un rôle à part entière, c'est celui qui réveille les foules, qui sont tout à fait endormies par les corporations qui ont pris d'ailleurs le pouvoir, et qui endorme les foules derrière leur discours politique, économique, etc. Et le musicien, mais qui est sous forme de rocker, hein, rocker boy, réveille les foules grâce à sa musique. Et c'est le rebelle, mais le rebelle dans un sens plutôt positif, justement, de réveil des consciences, quoi. À l'opposé, comme vous le savez, là, c'était le jeu de rôle cyberpunk que je présentais. Alors, c'est censé se passer dans les années 20. Vous voyez, l'idée qu'on se faisait, évidemment, dans les années 90, de nos années actuelles, bon, c'est pas tout à fait ça, mais c'est toujours le cas des choses d'anticipation. On peut pas tout prévoir au détail près. Et le jeu de rôle opposé, enfin, concurrent plutôt de cyberpunk, c'était Shadowrun, ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais dans la première édition, on a l'équivalent du rocker boy, là c'est le rocker ou la rockeuse, ce qui n'existe plus dans les éditions ensuite. Il n'y a plus ce personnage de base, on va dire. Mais la musique prend de plus en plus de place dans cette édition quatrième, qui n'est pas la dernière d'ailleurs tout à fait, mais on avait toute une page détaillant la musique, expliquant que la musique, elle est partout dans notre vie. Alors ça, on le sait de nos jours, mais c'est presque encore plus, parce qu'on peut aussi quasiment se brancher dessus. Et surtout, les musiciens peuvent se brancher sur leur instrument et produire immédiatement la musique qu'ils ont dans leur tête. Alors oui, avec l'intelligence artificielle, actuellement, on commence à peut-être arriver. Je vous dis ça parce qu'il y a une centaine d'années, Claude Debussy, un de nos grands musiciens français, disait, la mécanisation, tout ça, ça peut remplacer plein de trucs, mais au moins le musicien, c'est trop technique, actuellement on peut créer des choses artificiellement, on va dire, alors qui sont peut-être pas toujours passionnantes, mais ça commence peut-être à arriver. En tout cas, donc c'est ce que nous dit Shadowrun, cette édition-là parle des années 2070, la musique est partout, et y compris on peut se brancher sur les instruments. Un autre jeu de rôle dans la même veine, japonisant, d'un éditeur français, 7e siècle, nous proposait aussi le personnage de l'idolou, c'est l'équivalent à ce qu'on a dit avant, l'idole des jeunes et des moins jeunes, mais qui réveille les consciences dans ce jeu d'anticipation où il y a quelque chose de très mystérieux qui s'est passé autour du Japon, qui est un peu isolé, toute une dimension fantastique, on va dire, mais c'est tout à fait dans une ambiance cyberpunk également. Alors parfois la musique sert à autre chose, là on a un jeu de rôle Rêve de Dragon très onirique, comme son nom l'indique, Rêve de Dragon, toutes les aventures se passent dans les rêves de dragon. Alors ce que ça permet, c'est les déchirures de rêve, c'est-à-dire c'est des scénarios qui peuvent être dans des ambiances très très différentes au sein d'un même scénario, il suffit que vous passiez par une déchirure de rêve et vous passez dans un autre rêve et d'un coup vous êtes dans un univers différent. Alors c'est plutôt fantastique, hein, heroic fantasy, mais on peut se retrouver, je sais pas, même pas à l'autre bout du monde, c'est dans un autre rêve en fait. Et les scénarios étaient parfois très très étoffés de Rêve de Dragon, dont celui-ci, la balade de Harpsichore. On voit la très belle illustration de Florence Magna. Harpsichore, en fait, pour les musiciens, ça résonne un peu. Harpsichord, en musique, c'est le clavecin, c'est le nom anglais du clavecin. Et puis en fait, en quatrième de couverture de ce scénario-là, c'est la quatrième de couverture et c'est la balade en fait, c'est les paroles de la balade. Alors là, il n'y a pas de musique qui est proposée, mais peut-être qu'un maître de jeu qui est un peu musicien, il peut la mettre en musique ou au moins se mettre à chantonner les vers. Et ces vers-là sont la clé de toute l'histoire en fait, qui est très très longue. Hein. On ne va pas dire que c'est une campagne, mais c'est un très très long scénario. Et toute la clé, mais il faut décoder évidemment tout ce que ça veut dire, c'est rester mystérieux, c'est la clé de tout le scénario, de toutes les différentes scènes. Et c'est autour de la musique. Hein. Et Denis Gerfaut, dans la préface, il dit justement, une fois que le scénario sera terminé, il ne restera que ce souvenir musical de cette balade. Mais pour l'instant, c'est uniquement par des mots. Alors ensuite, il y a eu une évolution quand même. On a proposé des musiques simplement comme inspiration générale. Ça, on ne s'en rend peut-être pas suffisamment compte, mais on le fait sans y penser. La musique, par rapport à d'autres arts, c'est un art qui se déroule dans le temps. Donc c'est un peu l'art de la vie, quoi. Ça se déroule un peu comme la vie. Et ça matérialise vraiment, ça concrétise les choses. Quand vous voulez sentir l'esprit d'une époque, rien de mieux que d'écouter une chanson de l'époque, quoi. Une musique de l'époque. Et donc, des jeux de rôle ont, au fur et à mesure, proposé des musiques qui semblaient un peu concrétiser l'atmosphère générale de ce jeu de rôle. Alors, je reviens à Kuro, précisément. Il se trouve que les deux représentants du 7e cercle sont des musiciens, enfin, sont passionnés de musique, plus exactement. Plutôt de musique, d'ailleurs, rock, metal, mais bon. Et donc, beaucoup de leurs jeux sont associés à des musiques. Et donc, dans Kuro, vous aviez les inspis. On voit, alors c'est intéressant, c'est ce que je viens de développer, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de BO. Au départ, on n'écrit pas spécialement de musique pour le jeu de rôle, on se sert de musique existante, déjà un peu expressive, donc les musiques de film. On voit le ring, ça, plein de choses connues, et puis entre-temps s'insèrent des groupes. C'est un jeu de rôle qui a bénéficié d'une édition anglaise, hein, souvent c'est à l'inverse, mais, et voici, alors les Anglais un peu plus construits, eux ont séparé les deux inspirations de musique et de bande originale. Hein. Toute la liste qu'on a vue tout à l'heure, ils l'ont mis en deux catégories pour bien différencier les choses. Mais voilà, et ces musiques-là sont censées représenter un peu l'environnement sonore de ce jeu futuriste. Un autre jeu du 7e siècle, Sable Rouge, qui se déroule sur Mars, mais ils ont tendance à dire que c'est une sorte de western sur Mars, une espèce de mélange de ces deux inspirations-là. De même, propose dans les inspirations, pas seulement des musiques, hein, c'est comme tout à l'heure, mais aussi des musiques. Alors bien sûr, Ghost of Mars, The Scene, Ghost of Mars, 13e guerrier, voilà. Mais c'est vraiment qu'un titre ici, hein. C'est à vous de vous emparer de la musique comme vous le souhaitez, ou comme je dis, c'est plutôt une ossature musicale. Alors, bizarrement, d'autres jeux du 7e siècle, et je ne comprends pas pourquoi, n'ont pas bénéficié de ce genre de bibliographie musicale. Yggdrasil, qui se passe en ambiance viking, il y a pourtant plein de choses sûrement à proposer, il n'y a pas. Pour Zidkorps, dont la version Final Cut va tarder enfin à sortir, qui est super en retard. Pas non plus de proposition. Après, ça se passe plutôt à notre époque, donc on est censé peut-être à savoir. Mais en tout cas, pour Yggdrasil, c'est bizarre qu'il n'ait pas proposé. Bref, alors ensuite, on avance vers de plus en plus de précision. Hein. C'est un peu mon but. La musique comme support du jeu préexistante, maintenant, un peu plus concrètement, pas seulement un titre général. Alors, la musique induite par le scénario, vous avez des scénarios qui, de toute façon, vont vous proposer, par leur rédaction même, des musiques. Et puis, alors, la bio de musique de film. Alors, par exemple, celui-ci, j'ai traduit, à l'époque, pour l'appel de Cthulhu, Minuit sonnant, se passe dans une grande villa de la Nouvelle-Angleterre, une grande soirée, et en fait, on vous explique, il y a plein de monde, de la haute société, et entre les différentes salles, il se passe différentes musiques. Vous avez une salle où il y a un piano comme ça, il y a quelqu'un qui est en train de jouer du Chopin, et puis dans une autre plus grande salle, il va y avoir un big band de jazz, et puis dans une autre, peut-être un violon ou une chanteuse. Et donc, rien qu'en en prenant ça et en tapant sur YouTube, si vous voulez, vous pouvez vous faire une playlist directement. C'est ce que je mettais d'ailleurs dans le résumé, hein, à l'époque, c'est les traducteurs qui rédigeaient. Hein. Ce scénario est émaillé de nombreuses références musicales, et de taper sur YouTube
les noms cités et vous, de vous faire directement finalement votre playlist. Alors un autre, je vais vous le faire passer, ça c'est un autre que j'ai traduit aussi pour Lamentations of the Flame Princess. C'est une sorte de donjon et dragon un peu plus large peut-être, mais en fait il faut prendre ça aussi comme un jeu. Les titres sont restés en anglais, je voulais que ça reste un peu mais bon, c'est un peu rigolo quand même, parce que vous savez bien que dans toutes les choses un peu gothiques, il faut un orgue, alors il y a un orgue avec des os. Il y a au moins deux pages sur les musiques, parce que dans la cabane du haut, là, c'est dans le sous-terre, mais il y a une cabane, donc il y a un clavecin, et on peut déjà un peu jouer du clavecin, puis au fur et à mesure, on descend. Et donc, on se retrouve avec cet orgue et il y a deux pages de description. Et si les joueurs se disent, tiens, je vais jouer cette musique-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plein de choses. Si quelqu'un joue, il y a des choses plus ou moins connues, mais alors la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Rappelez-vous, Fantasia. Un crâne tombe d'un crochet et libère dans l'air le temps liquéfié. Toute personne présente dans la salle doit effectuer un jet de protection contre la mort ou vieillir de 20 ans. Bon. Etc. Vous lirez ça, mais alors le plus drôle, c'est on en déduit que l'auteur déteste le jazz. Si quelqu'un joue sur l'orgue du Gershwin ou du jazz, le musicien meurt instantanément, à moins que le joueur de ce PJ ait plus de 60 ans, auquel cas tout le monde sourit poliment et a besoin de boire un verre. Bon, je vous le passe. Bon, donc tout ça, c'est suggéré directement par le scénario. Alors, BDS des origines, pour la bande originale de son, bah, au départ, on a des cassettes, et donc on essaie de bidouiller, on recopie, on repique ce qui passe à la télé directement. C'est quand même pas encore tout à fait pratique. Bon, néanmoins, y avait déjà quelques tentatives assez intéressantes. Alors, voici une tentative d'assez bonne heure, 2004, vous voyez, ça fait 20 ans. Vous allez me dire c'est court, enfin pour l'histoire dont je parle, c'est quand même déjà pas mal. Arnaud Cuidet, c'est un nom qui est assez connu dans le milieu du jeu de rôle. Il a écrit voilà, Les Pirates de l'espace, Metal Adventure, voilà. Et Fausse Commando aussi, enfin voilà. Et il avait écrit donc un scénario, donc Casus Belli, l'édition numéro 2, je dois l'avoir par là. Conan, et Conan, bah, il utilise l'ABO de Conan, qui est d'ailleurs très bien. Et si vous regardez en bas de la première page, là, vous avez la première scène, et avec la piste de l'ABO que vous pouvez lancer, et en fait, vous avez un encadré où vous êtes censé lire par-dessus la musique la description de la scène. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, si je peux vous montrer ce que ça peut donner. Ouais. Très vite. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Le soleil se lève sur le désert chiite. Le sable prend une teinte dorée puis blanche. La chaleur s'abat sur vos épaules. Vous voudriez rester couché à l'ombre des tentes, mais déjà la morsure du fouet se fait sentir. Vous traînez vos carcasses, empêtrées par les chaînes jusqu'à ce qui est devenu le centre de votre vie, la roue. Vous posez vos mains contre les madriers et vous poussez, etc. Vous poussez, en fait, les personnages sont, dès le début du scénario, esclaves. Ils sont en train de pousser une roue qui moue du grain ou même pas. Et toute l'ambition du scénario va être évidemment de s'échapper, etc. Mais vous voyez, ça fonctionne bien. Et pour chaque scène, vous avez la piste dédiée. Ils vous guident en quelque sorte. Et ça, franchement, pour l'époque, c'était assez novateur. Le Maraudeur qui a disparu était une revue PDF très fournie, puisqu'il y avait au moins 200 pages à chaque numéro. Et dès le premier, l'auteur Cédric B pour un scénario de Cops. Cops, c'est un jeu de rôle d'anticipation où on joue des policiers à Los Angeles dans les années 2030. Voilà, il nous désignait tout ça avec des propositions, et des propositions assez intéressantes. Alors, on sait qu'en fait, dans une musique de film, vous avez plein de solutions, mais en tout cas, il y en a au moins deux assez simples. Soit vous mettez une musique exactement correspondante à la scène, mais au risque parfois d'être redondant, ou alors une musique totalement à l'opposé. C'est ce qu'il explique là, avec les Platters. Une musique sirupeuse pour laquelle il va y avoir une fusillade dans une supérette. Et là, il propose une musique très sirupeuse, le fameux Only You des Platters, pendant cette fusillade. Et là, en fait, par contraste, ça fait ressortir la violence. Y a un des premiers James Bond qui est comme ça, il y a une bataille sous l'eau là, avec un ministère dessus, tout le monde. Et en fait, c'est une musique très guillerette, mais qui en contraste renforce
vraiment la violence. Bon, tout le monde connaît Only You, ça, Only You, je peux le passer, mais bon. En tout cas, voilà. Alors, des auteurs progressivement se sont intéressés à attribuer des musiques à des atmosphères, dont Thomas Meunier, qui est un gars assez fou, mais dingue, que j'ai croisé aux Utopias, une fois on a fait une conférence ensemble, enfin... donc il nous a sorti musique sombre pour jeu de rôle sombre. Alors tout est classé par catégorie. Voilà le sommaire. Donc pour des déserts, pour des détresses, des dédales, des déités. Je connais pas tout, hein. Honnêtement, il y a des trucs très creusés, mais de temps en temps il y a du classique aussi. C'est long, hein. Il y a beaucoup de choses. Oh là là, je vois que le temps tourne, c'est effrayant. Donc du classique, là il explique le Requiem de Mozart, il n'y a plus que les gothiques pour écouter ça, tellement c'est assez drôle. Bon, dans Tenebrae, vous avez, alors on l'avait joué avec Pierre Chauvet ici présent, je vais vous montrer quand même ces deux choses-là. Dans Tenebrae, c'est un jeu qui se passe au XVIIe siècle, plus dans notre monde, mais en fait on chasse des démons et tout ça. Bon. Et le scénario du livre de base, enfin c'est des petits livrets, s'appelle le lourd, le renard et la belette. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. Et en fait, on nous propose, la musique doit incarner deux moments du scénario. C'est la clé du scénario, hein, cette chanson. Certains l'accusent justement d'attirer les démons et tout ça. Donc vous avez la version...
Juste au-dessus.
Ah voilà. Alors ça, c'est la version tradie. Ça, pendant le scénario, régulièrement, on peut l'entendre dans les villages. Ça se passe au bord de Loire, en plus. Et à la fin... Les joueurs auront fini par circonscrire les fameux démons. Ils sont trois, et il y en a un qui a une tête de loup, un autre une tête de belette, et voilà. Et on nous propose cette version d'LUSI, qui est un groupe death metal suisse. Mais c'est assez intéressant parce que du coup, la musique concrétise l'ambiance démoniaque du combat final. Chanteur ensuite qui se rajoute. Voilà, donc la musique commence à concrétiser en fait des ambiances de différentes scènes d'un scénario. Alors je vais avancer vite, là je vois que le temps passe. Ce jeu de rôle qui se passe dans les années 50, qui émule le polar noir mais avec un aspect fantastique, propose aussi une ambiance sonore plutôt jazz justement des années 50, Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud est beaucoup cité, la BO. Voilà. Pareil pour Crystal, bon je vais avancer. Pop. Night, alors tout à l'heure, certains vont pouvoir faire une partie de Night. Ça, c'est la première édition. Vous aurez des illustrations plutôt de la deuxième qui est encore plus jolie. C'est un jeu de rôle vraiment intéressant. Et les auteurs sont très passionnés de musique. Et tous les scénarios ont des propositions de musique. Y compris, vous voyez, avec des QR codes au niveau du scénario, vous avez une playlist possible. Moi, j'ai fait plusieurs parties avec l'ambiance sonore derrière, et il y avait vraiment des choses... Enfin, ça fonctionnait vraiment très bien. Bon, alors au niveau de la musique maintenant plus précise, vous avez les bandes-annonces. Beaucoup de jeux de rôle maintenant sortent avec des bandes-annonces sur le net, et il y a une musique... plus ou moins fabuleuse, hein, mais qui est composée pour l'occasion. Vous avez toujours les bruitages qui sont possibles. Vous avez des albums qui sont associés à des jeux. Alors, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est la première campagne de Pathfinder. Et vous avez... alors, le problème... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est un peu différent. C'est, vous avez de la musique, mais malheureusement, par-dessus, un Américain décrit la scène. Alors, pour les Américains, ça marche bien. Pour nous, c'est un peu moins fun, mais les musiques sont sympas derrière. Mais malheureusement, elles sont tout le temps entrecoupées. Et vous avez beaucoup de choses maintenant, comme de CD, dont un que moi, j'ai composé, et d'autres aussi, pour la élite. Voilà, et pour des scènes précises. Bon, alors, je vais avancer vers la fin. Il y a ça qui existe, c'est un site qui propose pléthore de morceaux d'ambiance sonore plutôt gratuites, hein, c'est des gens qui proposent leur musique et tout ça. Alors il y a boire et manger, mais il y a des choses pas mal. Il y a ce, je sais pas si vous connaissez ce logiciel Sirenscape qui vous permet en fait de lancer, alors c'est un peu, ben, faut s'y faire, hein, faut s'y mettre. Mais vous pouvez lancer, vous avez sous la main plein de bruitages et tout ça, vous réglez le volume de tout, vous avez des ambiances, alors ça peut être le marché du village, vous lancez un bruit de coq, il y a la foudre et tout ça, enfin, vous lancez des bruitages quand vous voulez. Il y a plein de banques de sons gratuites, et puis sinon vous pouvez en acheter en plus, qui sont souvent dédiées et spécialisées à des jeux de rôle ou voire des campagnes. Voilà, et puis... Ouais, j'avance. Vous voyez, par exemple, cette grande campagne de l'Appel de Cthulhu avait son propre album. Les Ombres d'Estérène sont un jeu qui possède sa propre compositrice. Hein, là, on est chez un éditeur français. Voilà. Ils ont même fait jouer leur musique par un orchestre. De l'Est, ça coûte moins cher, mais enfin, quand même. Et puis, alors ça, je vous ai parlé de Pathfinder. Hop. Mes étudiants ont fait quelques musiques à un certain moment, avec Sans Détour. Voilà. Moi, avec un collègue, Mathieu Wilbert, qui est compositeur de musique de film, on avait proposé une musique pour Héros et Dragons, et de fil en aiguille, on nous a proposé l'album de La Élite. Donc nous, on a fait un album où chaque musique décrivait de manière sonore chacun des quartiers de La Élite, qui est une immense ville orientalisante. Donc le quartier des artisans, le quartier en bas, là, près du lac, un peu plus glauque, l'empereur Dieu, hein, qui règne sur tout ça en haut, enfin, etc. Et puis, voilà. Alors ici, ça c'est un scoop. Je l'annonce à tout le monde si vous n'êtes pas au courant. L'autre grand jeu de rôle autour de l'univers de Cthulhu, qui s'appelle Cthulhu Gumshoe, ou Trail of Cthulhu, va reparaître en français. Il était paru chez le 7e cercle il y a déjà un moment, et puis ça n'existait plus. Va reparaître, c'est Christian Grussi, qui était un des mentors de Sans Détour, qui relance ça à travers le Matago aussi. Et donc, je suis chargé de traduire le tiers de cette campagne qui est assez énorme. Et surtout, ce qui est intéressant par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'à la fin, alors ça c'est tout à fait étonnant, j'ai rarement vu ça. Vous avez un appendice qui vous décrit, parce qu'ils ont composé là aussi tout un album pour cette campagne-là. Mais en plus de ça, à la fin, il vous explique les musiques. Il vous explique le choix des instruments, quelle est l'ambiance de chacune des pistes, enfin des fichiers. Et alors là, il n'y a pas de partition, mais si vous prenez la musique, eh bien, on vous donne la même chose avec des partitions en plus, quoi. Donc c'est complètement... Là, la musique est tout à fait intégrée et proposée à tout ça. Alors, j'avais normalement que je vous fasse écouter quelques secondes quand même, et puis après, j'ai terminé. Mais voyez, vous avez deux CD, et vous avez ici, non, c'est pas celui-là, voilà, une analyse musicale. Ah, et j'y arrive. Voilà, vous avez même les partitions un peu des thèmes. Pas toute la partition, mais c'est quand même, ça va quand même assez loin au niveau musical, quoi. Et alors au début, et je vous mets quelques secondes simplement, c'est le thème principal, le thème récurrent, qui doit être normalement lancé à chaque début de séance. On est un peu surpris parce que le son, il n'est pas terrible. Hein. Bon, pas ça, mais... Je ne sais pas si vous entendez, là c'est en mono en fait. Mais en fait, c'est voulu, parce qu'il parle bien, d'ailleurs, c'est sur la deuxième page, je pense, après. Ils disent ben, c'est comme si on l'entendait à travers une radio des années 30, mono et tout ça, parce qu'en fait ça se passe à cette époque-là. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez voir le morceau qui est très court, on bascule vers la musique d'aujourd'hui. Les morceaux sont vraiment relativement courts parce qu'en fait ça permet de les mettre en boucle. C'est ça aussi que permet la technique actuellement et qu'on ne pouvait pas autrefois, c'est que ça s'adapte au concept du jeu de rôle qui est qu'on ne sait jamais la durée d'une scène en fait, en fonction des résultats, de ce que les joueurs vont décider. Mettre une musique en boucle, et bien on peut s'adapter à n'importe quelle durée. Voilà. Merci de votre attention. Et je donne la parole à Romain qui va parler plus spécifiquement du métal.
On écoutera Romain demain qui fera une conférence sur le métal davantage et les jeux de rôle qui est passionnant, nous verrons ça demain. Donc les ambiances... décrite ici par Denis Humeau, par les musiques, sont la réalisation, enfin ce que j'ai compris et ce que je voyais avant, la réalisation de nos rôles dans la société micro, ici par les jeux de rôle, et macro tout autour de nous. C'est-à-dire que la musique, comme j'ai déjà dit plusieurs fois avant, est vraiment le reflet de la société. La musique qui sort, quoi, pas celle qu'on écoute. Parce qu'on peut écouter de tout, mais celles qui sortent maintenant, quoi. Pas les rééditions, hein, pas les represses des années 70, non, celles qui sortent de 2025, quoi. Et le jeu de rôle est en soi le renversé de la société. En soi, c'est plein de choses. Mais bon. Ou les impossibles, ça n'existe pas. Non, c'est pas possible. Et où l'imagination dresse les mouvements, justement, du côté invisible. Ça éclaire les mouvements, ça éclaire la façon de penser, de voir, de se mouvoir dans le côté invisible. Et les autres côtés, hein, on appelle ça comme on veut, le côté invisible. Et le jeu de rôle, pour finir, pour le côté invisible, dont je vous parle très très régulièrement dans mes shows, dans mes chroniques, ça, en fait, s'avère être un accès au côté invisible. Le jeu de rôle est un accès au côté invisible.
C'est Jet ou c'est rien. À quelle heure ?